Vous écoutez On lit pour vous.
Ramener les arbres dans les champs. Un texte de Laurence Niozzi paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. Sécheresses estivales, sols appauvris, rendements qui plafonnent. L'agriculture québécoise subit des pressions croissantes. Pour y faire face, un chercheur plante des arbres au cœur même des champs cultivés. Spécialisé dans les grandes zones de culture du sud du Québec, David Rivet s'intéresse au système dit agroforestier intercalaire, dans lequel plusieurs rangées d'arbres cohabitent avec les cultures. Une approche encore marginale au Québec, mais prometteuse pour faire face aux sécheresses et aux canicules. Dans les parcelles agricoles, les arbres peuvent jouer plusieurs rôles. Les haies brise-vent, par exemple, réduisent la vitesse du vent, augmentent l'humidité de l'air et des sols et diminuent le stress des cultures, explique le professeur en écologie des sols et en agroforesterie à l'Université du Québec en Outaouais, UQO. Leur zone d'influence peut s'étendre jusqu'à 20 fois leur hauteur, un effet bien documenté qui sert de point de comparaison pour étudier les systèmes intercalaires, où les arbres ne sont pas en bordure, mais directement au sein de la parcelle. Avec son équipe, David Rivet travaille sur des exploitations et mesure les rendements à différentes distances des rangées d'arbres, notamment à l'aide de capteurs installés sur les moissonneuses-batteuses. L'approche trouve écho chez une poignée de producteurs et productrices. C'est notamment le cas de Jacques Côté, un producteur laitier du centre du Québec qui a accepté d'implanter, en collaboration avec l'équipe de l'UQO, une parcelle agroforestière intercalaire de 10 hectares en 2012. Le principe était clair. L'équipe de recherche s'occupait des 400 arbres, lui poursuivait sa production habituelle de maïs, de soya et de foin. Une dizaine d'années plus tard, convaincu par la stabilité des rendements et le fonctionnement du système, il a répété l'expérience sur une autre parcelle de 5 hectares. Planter pour capter le carbone. L'agroforesterie ne sert pas seulement à s'adapter aux changements climatiques, elle contribue aussi à leur atténuation. L'agriculture représente environ 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre et le milieu cherche à améliorer son bilan carbone. Les arbres permettent de séquestrer du carbone à long terme, à la fois dans leur biomasse et dans les sols. Le sol est le principal réservoir de carbone terrestre et l'agriculture intensive l'a fortement appauvri, rappelle le professeur. En réduisant l'érosion et en augmentant les apports de matière organique, les systèmes agroforestiers contribuent à garder ce carbone dans le sol et à restaurer sa fertilité. Une méta-analyse menée par l'équipe de David Rivet, regroupant des études réalisées à l'échelle mondiale, montre que les systèmes agroforestiers augmentent en moyenne de 23 % les services écosystémiques et la biodiversité par rapport à l'agriculture conventionnelle. Malgré ces avantages, l'agroforesterie intercalaire demeure freinée par des coûts d'implantation, l'entretien des arbres et un manque de connaissances techniques. Pendant 200 ans au Québec, on a retiré les arbres pour faire de l'agriculture. Aujourd'hui, on réfléchit à la façon de les ramener dans les champs, souligne David Rivet. Un changement graduel, mais qui pourrait redéfinir la résilience de l'agriculture québécoise. C'était « Ramener les arbres dans les champs », un texte de Laurence Niozzi, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Spicomellus, armure de l'extrême. Un texte de Simone Caron, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Avec son armure extravagante, Spicomellus affaire remet en question les théories existantes sur l'évolution des ankylosaures, ces dinosaures à cuirasse. On fait parfois de drôles de trouvailles sur Facebook Marketplace entre les tondeuses d'occasion et les appartements à louer. Susanna Maidman en sait quelque chose. En 2016, la paléontologue britannique apprend qu'un fossile de stégosaure circule sur la plateforme. L'annonce vient d'un revendeur de fossiles basé à Cambridge, au Royaume-Uni. Il indique que son spécimen provient de la petite ville de Boulemane, au Maroc, et date du Jurassique moyen, soit d'il y a environ moins 170 millions d'années. D'un point de vue évolutif, cette période est vraiment intéressante parce que c'est le moment où les principaux groupes de dinosaures commencent à se diversifier, indique Susanna Maidman. Le Musée d'histoire naturelle de Londres, où travaille la paléontologue, achète donc le fossile pour sa collection. Mais puisque le fossile provient d'un marché privé, il faut d'abord confirmer sa datation et sa provenance avant de l'étudier et de faire part des conclusions à la communauté scientifique. La paléontologue recrute donc une équipe de détectives à cette fin. Un collectionneur amateur qui connaît bien les marchands de fossiles marocains, ainsi que Driss Ouarache, professeur de géologie de l'Université de Fès au Maroc. Le trio se rend à Boulemane pour retrouver le lieu exact de provenance du fossile. On a remonté la chaîne commerciale des vendeurs de fossiles et on a cogné à la porte des habitants pour leur demander s'ils avaient plus d'informations sur le spécimen, raconte Susanna Maidman. C'était vraiment un pari risqué, mais ça a fonctionné. C'est ainsi que l'équipe retrouve celui qui a excavé le fossile, un agriculteur qui a creusé derrière son terrain. Le géologue de l'équipe analyse les roches et confirme qu'elles datent effectivement du Jurassique moyen. Bingo! Avec ses 168 millions d'années, c'est le plus vieux stégosaure jamais découvert. Les chercheurs le nomment Adraticlite boulafa, ce qui signifie « lézard des montagnes » en berbère. Du jamais vu. En 2019, la paléontologue britannique qui travaille sur le stégosaure découvert au Maroc apprend que le commerçant de Cambridge vend un nouveau fossile en provenance de Boulemane, une côte de dinosaures inconnus. Il s'était évidemment procuré le fossile au même endroit, alors nous pensions qu'il appartenait à notre stégosaure, précise la paléontologue. Nous l'avons donc acheté pour le musée. Cependant, ce fossile a une allure très étrange au point que la paléontologue n'arrive pas à identifier son espèce. La côte est munie de quatre pics qui sortent directement de l'os. Les dinosaures à armure ont des pics sur le dos, mais ceux-ci sont intégrés à la peau, pas attachés à leur squelette, explique la chercheuse avec stupéfaction. Du jamais vu, pour reprendre ses mots. Aucun animal, éteint ou vivant, ne possède une telle caractéristique. Mystifiée par l'étrange fossile, Susanna Maidman et ses collègues décident d'observer le tissu osseux au microscope. L'analyse révèle que, contrairement à ce que les chercheurs pensaient initialement, la côte n'appartient pas à un stégosaure, mais bien à un ankylosaure, une autre famille de dinosaures à armure. Le type de tissu que nous avons observé se trouve uniquement chez les ankylosaures, indique la chercheuse. C'était excitant car les ankylosaures connus proviennent surtout du Crétacé, une période bien plus tardive. En plus, on les trouve habituellement plus au nord. Âgé de 165 millions d'années, l'étrange ossement est donc le plus vieux fossile d'ankylosaure jamais observé. De plus, c'est le premier trouvé sur le continent africain. Toute une découverte. L'équipe de recherche publie ses résultats en 2021, nommant cette nouvelle espèce Spicomellus afer, ce qui signifie collier à pointe africain. Toutefois, l'étude n'est basée que sur un seul os. la côte. Il en faut plus pour convaincre la communauté scientifique. Résolu à prouver l'existence de Spicomelus, la paléontologue britannique se lance dans une nouvelle mission, trouver de nouveaux ossements. De retour à Bulleman. En 2022, Susanna Mainman retourne au Maroc accompagnée d'une équipe d'étudiants et étudiantes britanniques et marocains, co-dirigée par le géologue Driss Ouarache. Arrivé à Bulleman, le groupe est accueilli par l'agriculteur qui avait trouvé les fossiles sur son terrain. Il leur montre de nouveaux os qu'il a réussi à excaver. L'équipe se met aussi à la tâche et déterre de nouveaux fossiles. Bonne nouvelle, le site est exceptionnellement riche. Nous avions maintenant 6 côtes complètes munies de pointes caractéristiques du Spicomelus, des parties de l'épaule, des ossements de hanche, des plaques et des pics de son armure et même un os en forme de U avec une épine de 87 cm de long. Quand nous avons fait l'inventaire du matériel excavé, nous étions complètement ébahis, raconte Susanna Mainman, avec des étoiles dans les yeux. Sans aucun doute, c'était le point culminant de ma carrière. C'est officiel maintenant. Spicomelus Affaire n'est plus une légende et son portrait a été publié par l'équipe dans Nature en 2025. Il n'en est pas moins mystérieux. Quand on y pense, nos bras bougent grâce à des muscles qui traversent le dos et les épaules. Mais Spicomelus, lui, avait de grosses épines qui sortaient de ses côtes. Alors, comment faisait-il pour marcher? Que se passait-il avec ses muscles? Il manque encore l'information pour élucider ce mystère. C'est très étrange, affirme la chercheuse. Le curieux parcours de l'évolution. Avec ses énormes épines intégrées au squelette, Spicomelus a surpris les paléontologues, bouleversant leur conception de l'histoire évolutive des ankylosaures. Les ankylosaures, plus tardifs du Crétacé, ont une armure compacte. Elle est composée d'ostéodermes. Ce sont des écailles en os qui sont insérées dans la peau et les muscles et qui agissent comme un bouclier, indique François Terrien, paléontologue au Musée royal de Tyrrell, en Alberta. On s'attendait à ce que leur ancêtre ait une armure encore plus simple, mais c'est tout le contraire. Mais pourquoi Spicomelus avait-il une armure si encombrante? Ses épines avaient certainement un rôle de défense, répond François Terrien. Mais leur longueur s'étire bien au-delà de ce qui est nécessaire pour la protection. Habituellement, les structures aux proportions exagérées servent à impressionner les membres de sa propre espèce, soit pour les effrayer, soit pour attirer le sexe opposé. On peut donc en conclure qu'originellement, l'armure des ankylosaures jouait un double rôle de protection et de parade. En 100 millions d'années d'évolution, l'armure a rapetissé et n'a conservé que son rôle de bouclier. Probablement parce qu'elle causait trop d'inconvénients. Elle devait demander un coût énergétique énorme à produire et elle devait nuire au déplacement du dinosaure par son poids et en s'accrochant dans les herbes et les branches. Si le fait d'évoluer vers une forme plus simple semble contre-intuitif, l'évolution n'est en fait ni linéaire ni planifiée. Elle ressemble davantage à une série d'essais-erreurs involontaires sur des milliers de générations. En cours de route, ce processus a donné lieu à des prototypes impressionnants qui n'ont pas toujours été conservés. On peut aussi supposer que le comportement de ces dinosaures s'est complexifié alors que l'armure s'est simplifiée, avance François Terrien. Plutôt que de se fier uniquement à leur parure extravagante pour impressionner un adversaire ou un partenaire sexuel, les ankylosaures sont probablement devenus plus sociaux et ont développé des comportements plus complexes. Mais, évidemment, ce ne sont que des conjectures. Contrairement aux squelettes, les comportements, eux, ne se fossilisent pas. L'épineuse question de la provenance des fossiles. Le marché privé des fossiles sur Marketplace Wire soulève plusieurs questions éthiques. En tant que paléontologue, on n'aime vraiment pas faire affaire avec le marché privé, explique François Thérien. Les prix peuvent être très élevés à cause des enchères. Habituellement, les musées préfèrent financer la recherche sur le terrain plutôt que dépenser une fortune sur un seul spécimen. Le problème, c'est que les fossiles ne contribuent pas à la science quand ils restent dans les collections privées. Une découverte scientifique rigoureuse doit être réplicable. Il est donc impossible de publier une étude sur un spécimen qui n'est pas accessible à la communauté de recherche. Ainsi, Spicomelus n'aurait pas été découvert si le musée ne l'avait pas acheté. C'est une lame à double tranchant, ajoute le paléontologue. On veut sauver des fossiles, mais on ne veut pas encourager ce commerce, parfois illégal, qui dépouille la science de précieux éléments. Qui sait combien d'espèces inconnues dorment dans les salons des riches collectionneurs? Quant au fait d'importer des fossiles d'autres pays, là aussi, le sujet peut être délicat. C'est difficile de travailler sur les fossiles au Maroc parce qu'il n'y a aucun musée d'histoire naturelle là-bas, précise Susanna Medmand. Il n'y a pas de laboratoire pour préparer les fossiles ni d'endroit pour les entreposer et aucun spécialiste en paléontologie. On a dû tout bâtir à partir de rien et former une équipe entière dans un laboratoire en Égypte. L'histoire naturelle du Maroc est très riche, alors j'espère vraiment que notre projet permettra à l'université de développer une expertise en paléontologie. Ça faciliterait énormément la recherche d'avoir des spécialistes sur le territoire. C'était Spicomelus, armure de l'extrême, un texte de Simone Caron, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science.
Petit fruit, grande ambition. Un texte de la rédaction paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. On ne produit du champagne qu'en région Champagne, en France. Le Parmigiano Reggiano, lui, ne peut venir que d'Italie. Ces produits sont protégés par des appellations d'origine qui garantissent à la fois un territoire précis et un savoir-faire reconnu. Ici, la canneberge québécoise suivait le même chemin. Le Québec est le premier producteur mondial de canneberge biologique et, selon les années, il se hisse même au sommet de la production mondiale, toutes catégories confondues. Comment, alors, valoriser et protéger ce produit du terroir face aux pratiques de standardisation imposées par la mondialisation? La doctorante en économie politique internationale à l'École nationale d'administration publique, ENAP, Nancy Rossi, a longuement étudié cette question en suivant le parcours du petit fruit qui pousse dans des tourbières. Sa culture prend un véritable essor dans les années 1980, au moment où la filière se structure. En 1994 est fondée l'Association des producteurs de canneberge du Québec, qui regroupe aujourd'hui plus de 90 % des cannebergières de la province. En parallèle, des investissements sont réalisés en recherche et en formation. Nancy Rossi, qui est d'origine italienne, ne peut s'empêcher de comparer le Québec à la France et à l'Italie, deux pays champions des appellations farouchement attachées à leur identité culinaire. Il y a encore du travail à faire au Québec, estime celle dont la thèse porte justement sur la protection du droit de propriété intellectuelle des indications géographiques sur le plan international. Le terroir québécois possède des caractéristiques uniques, dont la nordicité et l'immensité du territoire. Encore faut-il apprendre à reconnaître, nommer et raconter ces spécificités. Valoriser le terroir, croit-elle, passe aussi par une meilleure littératie culinaire dès l'école. C'était « Petit fruit, grande ambition », un texte de la rédaction paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Vivons-nous dans une simulation? Un texte de Marine Corniou, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Vivons-nous dans la matrice? Sommes-nous des avatars de jeux vidéo contrôlés par on ne sait quelle civilisation supérieure? Il y a quelques semaines, des physiciens de l'Université de la Colombie-Britannique se sont penchés sur cette question et y ont répondu par la négative dans une étude très sérieuse publiée dans le Journal of Holography Applications in Physics. Le quatuor de chercheurs a utilisé des théorèmes mathématiques pour soutenir qu'une description cohérente du monde ne peut pas reposer uniquement sur des algorithmes qui suivent une succession d'étapes logiques. Bref, que notre univers est trop complexe pour être une simulation informatique. Passons les détails de leur raisonnement, difficile à comprendre et à vulgariser ici. Ce qui est surprenant, c'est que cette hypothèse de la simulation qui a tout l'air d'une vulgaire théorie du complot, soit un vrai sujet de recherche et de débat. L'idée est aussi saugrenue que ce que son nom laisse entendre. Ce que l'on perçoit comme le monde réel serait en réalité un programme informatique au sein duquel nous serions des sortes de « sims », des personnages à la merci d'algorithmes incroyablement puissants. Des dizaines de scientifiques et de philosophes se sont interrogés sur la nature de la réalité au fil des siècles, à commencer par Platon avec son allégorie de la caverne. Dans cette scène, des prisonniers vivent enchaînés dans une caverne depuis leur naissance. Ils tournent le dos à l'extérieur et ne voient que des ombres d'objets et d'humains projetés sur le mur. Si bien que les ombres sont la seule réalité qu'ils connaissent et qu'ils sont persuadés que rien d'autre n'existe. René Descartes, lui aussi, s'est interrogé sur l'illusion et sur nos perceptions sensorielles potentiellement trompeuses. En 2003, le philosophe Nick Bostrom de l'Université d'Oxford apporte une tournure plus scientifique au débat, à coup de probabilité mathématique. Il explique dans un article fondateur qu'il est très probable qu'une civilisation avancée parvienne à produire des simulations humaines réalistes et dotées d'une conscience. Et que, si cette civilisation peut le faire, il y a de grandes chances qu'elle le fasse. En bref, il ne prouve rien, mais il conclut que c'est statistiquement crédible. Depuis, les publications se succèdent, certaines affirmant que c'est impossible, comme celle des Canadiens CIO, et d'autres que c'est probable. Dans un article de 2025, le physicien américain Melvin Vopsum, grand partisan de la théorie, amène le concept une coche plus loin. Selon lui, la gravité, cette force fondamentale de la nature, serait en fait une manifestation de la compression de l'information liée au programme qui régit le monde. En compactant la matière, la gravité serait en fait une façon de réduire le volume d'informations dans lequel nous évoluons. Les ordinateurs compressent et restructurent leurs données constamment pour libérer de la mémoire et de la puissance de calcul. Il se passe peut-être la même chose dans l'univers, avance-t-il, dans le webzine de vulgarisation The Conversation. Le hic, c'est que si nous vivons dans une sorte de dôme artificiel, comme les protagonistes du Truman Show, on ne pourra jamais le prouver. Car tous nos arguments, toutes nos tentatives de démonstrations expérimentales ou théoriques feront, par essence, eux aussi, partie de la simulation. Et donc, ne tiendront jamais la route. Dans ce cas, à quoi bon s'arracher les cheveux? Arguent certains scientifiques. Par ailleurs, ce postulat ouvre une sacrée boîte de Pandore. À quoi peut bien ressembler la forme de vie plus intelligente que nous, capable de créer un tel univers? Et d'où vient cette forme de vie? Comment est-elle apparue? Voilà qui nous ramène plus ou moins au grand mystère des origines que l'on explore dans ce numéro. Il n'y est pas question de la théorie de la simulation, mais on pose tout de même de grandes questions philosophiques. Qu'est-ce que la vie? Comment peut-elle émerger du non-vivant? Peut-on la créer artificiellement? On fait peut-être fausse route, mais à défaut de prouver que l'on vit dans une modélisation, autant tenter de modéliser la vie telle qu'on la connaît. C'est ce que font les scientifiques. Ils la décortiquent, ils la traquent dans les roches anciennes, tentent de la faire naître en laboratoire. Il y a encore du pain sur la planche, mais le voile se lève petit à petit. Et s'il advient que nous sommes bel et bien dans une simulation, ce travail acharné aura le mérite d'être divertissant pour les extraterrestres ou les superhumains qui nous contrôlent. C'était « Vivons-nous dans une simulation ?» Un texte de Marine Cornu, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science.